Donc je me présente, Emmanuel Cretin, maire de la commune de Nansou-Sainte-Anne. Je vais essayer de ne pas être trop soporifique, parce qu'après le repas, c'est toujours compliqué de tenir une assemblée en haleine. Avant de vous présenter un petit peu mon expérience personnelle, et puis comment aussi un élu local peut, à son échelon, essayer de faire évoluer les choses, peut-être me présenter un peu, un peu mon parcours, ce qui va aussi permettre peut-être d'expliquer aussi mes sensibilités aussi à l'écologie et à l'environnement. Donc moi j'ai 52 ans, je suis maire de la commune de Nansou-Sainte-Anne depuis 2014. C'est une petite commune rurale qui fait partie du territoire de la Comcom Loulison, commune rurale de 160 habitants, donc petite commune. Moi, mon parcours, je suis, comme Gérard, originaire du pays de Montbéliard. Donc, Montbéliard, c'est Peugeot, c'est les voitures. Mon père était ouvrier chez Peugeot, ma mère était ATSEM, même si elle a été formatrice aussi. Il y a une petite similitude aussi avec Gérard en maison familiale et rurale. Donc plutôt, issu d'une famille d'ouvriers, sensibilité de gauche, évidemment, surtout par le biais de ma mère, qui était un peu plus engagée politiquement. Mon parcours, j'ai un parcours universitaire, j'ai fait des études plutôt en sciences. Malheureusement, je suis pas un littéraire, je préfère le dire aussi d'emblée, mes références philosophiques sont un peu pauvres malheureusement, donc ne vous attendez pas à avoir un exposé très philosophique. Un cursus scientifique en biologie et écologie, avec l'équivalent d'un master 2, ce qu'on appelait à l'époque les deux ESS, espace rural et environnement. Voilà, donc moi je suis plutôt issu du monde associatif à la base, un engagement dans les associations de protection de la nature. J'ai été objecteur de conscience, donc j'ai pas fait le service militaire classique, puisque je me suis engagé pendant 20 mois au service d'une association. Je pensais que c'était un peu plus... Ce serait un peu plus intéressant pour moi et plus formateur que d'aller faire le bidas en Allemagne, parce que quand on était dans le pays de Montbéliard, on finissait souvent en Allemagne. Donc moi, j'ai fait ça dans une association de protection de la nature à Dijon, et il se trouve que le président de cette association était prof de philo à Dijon. Pour ceux qui sont de Dijon, Luc Strena, peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est un philosophe qui est quand même prof de philo, mais assez reconnu, et au niveau protection de la nature également. Donc il m'a un peu ouvert aussi l'esprit sur d'autres choses que l'écologie. Voilà. Et donc je travaille toujours dans l'environnement, puisque je suis en fait salarié d'une collectivité territoriale depuis 20 ans. Je travaille on en a parlé un petit peu tout à l'heure ce matin, à l'EPAGE Audou-Hauteloup. L'EPAGE, c'est l'établissement public territorial. On s'occupe de gestion de l'eau, mais pas que, on s'occupe aussi de biodiversité. Et moi, mon travail, c'est notamment, je suis chargé de travailler sur la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques. Et notamment, je travaille sur Natura 2000, pour ceux qui connaissent. C'est un projet européen qui vise en fait à préserver la biodiversité dans un certain nombre de sites. Et ce territoire Loulison est un des grands sites Natura 2000 de la région Franche-Comté. Voilà, donc cursus donc universitaire plutôt scientifique en écologie. Et en fait, je suis arrivé maire un petit peu par hasard, pour dire, sans passer par la case départ du conseil municipal, puisque en 2014, l'ancien maire quittait ses fonctions. A priori, il n'y avait pas beaucoup de prétendants. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent prendre la responsabilité d'y aller. Et donc, le maire de l'époque était venu me voir en me disant « Écoute, tu travailles dans une collectivité, on s'est déjà rencontrés. Ça pourrait être intéressant que tu sois, évidemment, si tu es élu, que tu te présentes. » Donc bon, j'ai tenté le coup, et puis je me suis retrouvé maire de la commune depuis 2014. Voilà. Donc moi, la question, évidemment, de la problématique environnementale, je suis assez, comme disait Hemingway, je suis un optimiste qui est devenu réaliste, mais je suis du coup un petit peu pessimiste sur l'avenir de l'humanité quand même globalement. J'ai du mal à voir comment on va s'en sortir dans une logique toujours consumériste et sur la base d'un capital, d'un système capitaliste néolibéral qui évidemment n'intègre pas beaucoup la prise en compte de l'environnement. Donc moi je souscris assez facilement, ça va peut-être vous choquer, mais au pamphlet qu'avait écrit Yves Pacalet il y a quelques années, l'humanité disparaîtra, bon débarras. Et moi, j'en suis à me dire que plutôt on disparaîtra de cette planète, plutôt on la laissera peut-être viable pour les espèces qui sont derrière. Moi, donc, je suis conscient qu'on est, on fait partie d'un environnement et qu'on est une espèce parmi les autres dans un écosystème où on a besoin, je dirais à tous les niveaux, je l'ai dit à midi, d'intégrer dans nos prises de décision les incidences environnementales dans tous les domaines, je pense. On devrait se poser ces questions-là sur chaque choix qu'on fait dans les conseils municipaux. Donc, bien conscient des problèmes d'érosion de la biodiversité, hein, problème du changement climatique, problème de pollution de l'eau, voilà. Et pour autant, je suis assez pessimiste, mais je me dis qu'on ne peut pas non plus baisser les bras. J'ai plutôt quand même un tempérament militant. Et je me dis, bon, voilà, t'es maire d'une commune... qu'est-ce qu'éventuellement tu peux essayer de faire pour faire changer les... essayer de, en tout cas de participer à une prise de conscience et de faire changer les choses. Donc en gros, penser globalement et comment on peut agir localement quand on est maire, sachant que quand on est maire, ben, on accepte quand même à la fois d'être le représentant de l'État sur certaines missions. Hein, voilà. Et comment à travers le... Je dirais le carcan républicain, il y a des règles. Hein. Si le maire ne respecte pas le droit, qui va le respecter Mais comment on peut essayer, à travers ça, de quand même d'évoluer et de proposer des choses. Voilà. Donc, évidemment, la gestion d'une commune, ça implique de réfléchir au quotidien sur nos gestes, ce qu'on y fait. Alors, on ne fait pas toujours bien. C'est pas toujours simple parce que... On est dans un conseil municipal, hein, donc ça veut dire qu'il y a, dans le cas présent, à Nansou-Sainte-Anne, il y a 11 personnes autour de la table. Tout le monde n'a pas la même sensibilité que moi. Comment on arrive à faire partager des choses sans être dictateur, qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait une décision partagée. Et n'oublions pas non plus qu'après, on délègue aussi, par exemple, sur la gestion de l'espace communal. On a un agent communal. Donc ça veut dire aussi qu'on travaille avec lui et qu'il va falloir faire aussi avec lui. Voilà. On peut bien dire « faut pas de pesticides, faut pas de ci, faut pas de ça ». Mais au quotidien, dans la gestion des espaces publics, comment ça se passe voilà. Alors à Nansou-Sainte-Anne, on a été engagé bien avant la loi Labbé. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la loi Labbé. C'est une loi qui, en gros, dit... Et d'ailleurs, c'est assez marrant, qui dit que les collectivités ne peuvent plus utiliser de pesticides sur les espaces publics. Donc si on ne peut plus en utiliser, c'est que ça doit être dangereux quelque part. Le citoyen, maintenant, ne peut plus en acheter facilement, aussi librement en tout cas qu'avant. Il n'y a plus que les agriculteurs qui ont le droit d'en utiliser. On y reviendra tout à l'heure. On peut se poser quand même la question. C'est les plus gros utilisateurs de l'espace, mais eux, ils peuvent encore l'utiliser. La collectivité ne peut plus en mettre sur la voirie et sur les espaces publics. Moi, ça me va bien, mais voilà. Donc, alors bien avant la loi Labbé, nous, on avait déjà réfléchi. Ça ne vient pas que de moi. Hein, mes prédécesseurs avaient déjà aussi travaillé dans ce sens-là. C'est-à-dire, on peut aussi gérer les espaces publics sans mettre de pesticides. Donc, ça demande d'autres techniques alternatives de désherbage. Ça peut être le piochage, le bêchage, il y a du thermique. Puis c'est aussi de l'acceptation. À un moment, on peut aussi se dire... s'il y a quelques herbes folles qui poussent dans une bordure de trottoir, est-ce que c'est réellement un problème? Est-ce que le gros problème des collectivités, apparemment, c'est les cimetières? C'est les herbes dans les cimetières. Est-ce que ça pose réellement un problème d'avoir des herbes dans un cimetière? Est-ce que ça dérange les morts? J'en suis pas certain. Surtout quand on va aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, les cimetières, ils sont engazonnés et c'est pas du gravier. Alors peut-être qu'on a aussi le... c'est peut-être notre notion de gestion à la française des espaces et des jardins qui... C'est peut-être ce résultat-là. Mais en tout cas, une herbe folle dans les graviers, dans un cimetière, ça pose souci. En tout cas, maintenant, à Nansou-Sainte-Anne, on les laisse pousser et on tond les allées. Et au final, ça n'empêche pas les gens de venir dans le cimetière. Voilà. Donc, c'est une autre gestion des espaces publics. Là-dessus, il y a eu aussi... Alors, évidemment, les pesticides, on sait que c'est un gros problème parce que ça reste utilisé massivement par l'agriculture. Avec une problématique, c'est qu'on en retrouve maintenant dans tous les compartiments. On en retrouve dans les sols, on en trouve dans l'eau, on en trouve dans l'air. Et on en trouve évidemment dans les chaînes alimentaires, puisque c'est des éléments qui s'accumulent et qui s'accumulent sur plusieurs dizaines d'années dans les êtres vivants, avec des problématiques environnementales, hein, donc perte de biodiversité, mais aussi des problèmes de santé publique. Voilà. Là-dessus, au niveau national, vous avez tous entendu parler du mouvement des coquelicots, notamment c'est un mouvement qui a été lancé par Nicolino au niveau national, relayé par les médias, et c'était de se dire comment nous, localement, on s'inscrit dans ce mouvement-là. Il se trouve qu'il y avait une association locale qui s'appelle l'association Échelle, qui est active sur notre secteur, qui avait lancé en disant qui souhaitait en fait relayer ce mouvement des coquelicots. Le but, c'était en fait de se réunir, hein, tous les premiers vendredis de chaque mois, pendant un an et demi, sur la place publique, pour, voilà, après on pouvait greffer là-dessus diverses animations, mais pour c'est de mobiliser l'opinion publique pour demander aux décideurs qu'il fallait arrêter les pesticides. Donc c'est tout naturellement que la commune de Nant-sous-Sainte-Anne s'est intéressée à cette démarche. Alors je précise que ça a été discuté en conseil municipal, hein, c'est pas un petit caprice du maire de dire « ouais, on veut relayer les coquelicots ». Ça a été discuté en conseil municipal, on a fait le point, on a dit « bah oui, on est engagé dans cette démarche depuis longtemps, déjà dans la gestion des espaces publics, donc c'est assez logique de poursuivre et de s'engager dans le mouvement ». Donc ça a donné lieu à une délibération à l'unanimité, je tiens à le préciser. Voilà, et puis bon, tous les vendredis, tous les premiers vendredis de chaque mois, on se réunissait. Alors c'était variable, hein, entre 10 et 20, 25 personnes. Et puis, bah, chacun lisait un témoignage où on parlait aussi de plein d'autres choses. Il y avait des pétitions, hein, qu'on a fait signer auprès des habitants. À l'occasion du Tour de France, on a aussi essayé de sensibiliser les médias là-dessus. On avait préparé un grand maillot qu'on avait mis dans l'axe de l'arrivée du Tour de France à Nant-sous-Sainte-Anne, un grand maillot à pois. En fait, c'était des coquelicots, mais ça faisait penser au maillot du meilleur grimpeur. En mettant stop pesticides, bon, bah voilà, c'était l'action. Il y avait beaucoup de personnes dans le centre-village ce jour-là. Moi, j'en ai profité avec une ou deux personnes pour faire signer la pétition. Et puis, évidemment, dans ce mouvement-là, la question s'est vite posée. Pourquoi, du coup, le maire, on signerait pas un arrêté anti-pesticides ? Voilà. C'était aussi au moment où ça a été pas mal médiatisé avec le maire de Langouette, Daniel QF, qui avait signé qui avait pris un arrêté des pesticides, puis qui a été pas mal médiatisé. Donc ça s'est fait comme ça, en fait. Donc bon, moi j'ai pendu un arrêté. Je me suis d'ailleurs largement inspiré de ce qu'avait fait le maire de Langouette. Et puis, bah, évidemment, un arrêté municipal, on envoie ça au contrôle de légalité. Et puis, voilà, sachant qu'on savait pertinemment ce qui nous attendait, c'est-à-dire que le préfet allait lancer un recours contre mon arrêté, parce qu'en fait, dans le droit actuellement, alors même si le maire, quand on regarde les textes, est responsable de la santé publique, de la salubrité et tout ça, néanmoins, tout ce qui est réglementation relative aux pesticides, ça relève du... C'est une police exclusive du ministre de l'Agriculture. On peut d'ailleurs se poser la question de pourquoi le seul ministre de l'Agriculture a le droit de réglementer les pesticides. Donc, bon, moi, je savais pertinemment où ça allait. Donc, ça n'a pas manqué. Hein. 15 jours après, le préfet me demandait d'annuler mon arrêté sous peine de me mettre au tribunal administratif. Donc, moi, j'ai maintenu mon positionnement en expliquant que, la commune était engagée depuis de longues dates dans des réflexions et n'utilisait plus de pesticides et que ce n'était pas un effet buzz. Et qu'en plus, moi, je considérais que l'État était défaillant dans ce domaine, puisque l'État, ça devrait être le rôle de l'État de se préoccuper de la santé publique et des problématiques environnementales. Parce qu'il y a de nombreuses publications scientifiques qui démontrent que les pesticides sont un véritable problème. Donc je me suis retrouvé au tribunal administratif. Il y a eu un référé suspension. Hein, donc il faut bien le droit. Donc il y a eu un premier jugement sur la forme, c'est-à-dire un référé suspension du préfet qui annule dans l'urgence mon arrêté. Un référé suspension, normalement, ça se fait pas n'importe comment. Ça se fait quand il y a vraiment un caractère d'urgence et que ça nuirait à quelqu'un. Moi, j'ai quand même posé la question assez vite de en quoi mon arrêté nuisait à qui que ce soit. Mais on m'a dit qu'en fait, le préfet n'avait pas les mêmes... pouvait, lui, demander un arrêté suspension, même s'il n'y avait pas forcément le caractère d'urgence. Donc j'ai dit au président du tribunal que c'était peut-être un abus de pouvoir du préfet. Mais voilà, donc moi, j'ai expliqué. Hein. Alors je précise aussi que je ne me suis pas fait représenter par un avocat. J'ai fait mon mémoire en défense tout seul. Je suis allé le présenter devant le tribunal administratif. Voilà. Il y avait 100 à 150 personnes devant le tribunal administratif. Alors, il y avait des habitants de Nansou-Sainte-Anne, évidemment, mais pas que. Il y avait des gens aussi de Besançon. Il y avait une mobilisation de tous les mouvements coquelicots du secteur. Et puis, il y avait un ou deux élus locaux, quand même, qui étaient venus me soutenir à l'occasion. Et on avait aussi pris le soin d'inviter aussi la profession agricole, parce que, finalement, les agriculteurs sont les premières victimes de ce système-là, puisque c'est les premiers, en tant qu'applicateurs des pesticides, c'est les premiers exposés, en fait, aux pesticides, aux maladies, hein, voilà. Et on avait eu le soutien de la Confédération paysanne, donc avec un communiqué de presse très clair et sans ambiguïté, qui soutenait l'initiative du maire de Nansou-Sainte-Anne. Donc voilà, il y avait, du coup, à peu près 100 à 150 personnes devant le tribunal, et les médias étaient présents, donc, bon, c'était aussi, voilà, je ne vous cache pas que on s'attendait aux résultats, en tout cas juridiques. Je ne faisais pas trop d'illusions. Mais ça a été quand même l'occasion de médiatiser l'événement et de faire connaître notre positionnement, de rappeler que c'était un réel problème environnemental et de santé publique et que l'État était défaillant sur cette problématique-là et qu'on pouvait quand même s'étonner que les collectivités et les particuliers ne pouvaient plus en utiliser. Et alors, par conséquent, pourquoi les agriculteurs, qui sont les plus gros utilisateurs de l'espace, eux, pouvaient continuer à en utiliser voilà. Donc, ben, évidemment, sans grande surprise, en tout cas, sur le référé suspension, jugement sur la forme, ben, le tribunal administratif de Besançon a suspendu mon arrêté. Ça veut dire suspension, ça veut dire qu'il n'est plus applicable. Pour autant, il n'était pas annulé. C'est important, hein, la sémantique quand même, au niveau juridique. Donc ça voulait dire qu'il derrière, il allait avoir un deuxième procès, mais sur le fond. Hein, le référé suspension est qu'un problème d'urgence. On lève l'application de l'arrêté, mais on ne l'annule pas encore. Voilà. Donc ça, ça a duré un an et demi, ou pendant un an et demi, ben, mon arrêté était suspendu, mais pas annulé. Alors, bon, je pense qu'il y a eu aussi différentes choses. Hein. Il y a eu les élections qui fait que, ben, du coup, la préfecture n'a pas, à mon avis, souhaité trop avancer. Il y avait aussi, au niveau administratif, réglementaire, il y a eu des évolutions sur les pesticides, où il y a eu des chartes qui ont été mises en place sur les distances de traitement, parce qu'entre-temps, l'Union européenne et le Conseil d'État avaient jugé que, effectivement, la France était défaillante par rapport à la problématique des pesticides. Donc ils ont bien attendu que les élections soient terminées et que le Conseil d'État ait statué sur les arrêtés. Hein. Hein, le Conseil d'État, fin décembre 2020, a clairement dit que le maire n'était pas compétent sur la réglementation des pesticides. Et comme par hasard, au mois de janvier, je recevais une convocation pour me dire que cette fois, j'étais convoqué pour un jugement sur le fond. Donc j'ai refait entre-temps, j'ai amendé mon mémoire en défense. Et donc je suis repassé au mois de février devant le tribunal administratif, où là, ils ont convoqué tous les maires qui avaient pris un arrêté sur le Doubs anti-pesticides. Donc on doit être 5 ou 6 communes. J'étais le seul à être présent à la barre. Il y a une commune qui s'était fait représenter par un avocat, mais il n'y avait aucun autre élu à la barre. Bon, je trouve ça un peu dommage qu'un élu prenne un arrêté et n'aille pas le défendre jusqu'au bout devant le tribunal. Parce que bon, je pense que la moindre des choses, c'est d'aller défendre ses idées quand on prend un arrêté. Donc ben voilà, j'ai réexposé, moi, si vous voulez, mes arguments au président du tribunal, qui était plutôt une personne 30, 35 ans, plutôt ouverte, en tout cas, il m'a fait comprendre qu'il connaissait bien la problématique des pesticides, qu'il était... Enfin, il m'a fait comprendre que mes arguments, qu'il les comprenait, mais il m'a rappelé quand même qu'il était là pour juger du droit et que pour le moment, le droit disait que le maire ne pouvait pas prendre...
C'était pas le même.
Voilà. Et voilà, et bon, bah, au final, évidemment, là encore, hein, j'ai été débouté et mon arrêté a été cette fois annulé. Donc, du coup, je. Voilà. Donc, voilà un exemple hein, de mobilisation localement d'un élu pour essayer de faire bouger les choses. Et on voit bien que là, on se heurte quand même à des problématiques plus globales. On sait aussi que ben, il suffit de voir un peu comment actuellement c'est en pleine négociation de la PAC. Vous avez peut-être entendu dire que hier ou avant-hier les ONG et la Confédération paysanne a quitté la table des négociations parce qu'en gros le ministre de l'Agriculture a considéré qu'il n'y avait rien à changer dans la PAC actuellement, comme s'il n'y avait pas de problème dans l'agriculture aujourd'hui. Voilà, donc on voit bien que derrière il y a des lobbies. On sait aussi que le ministre de l'Agriculture il est nommé avec l'accord aussi des syndicats agricoles. Dominant. Voilà, donc on voit bien que là derrière, c'est pas. Enfin, on voit bien qu'il y a des enjeux. Voilà, donc c'est après, moi, la question que je pose, c'est comment un maire, qu'est-ce qu'on peut faire localement, finalement, quand un maire essaye de se bouger un petit peu en essayant de mobiliser sa population, quelles sont les marges de manœuvre? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Est-ce qu'un jour, on réglementera les pesticides? J'en suis pas certain. Voilà. Comment ça doit localement se passer? Est-ce que c'est... Moi, j'ai du mal, et ça a été dit ce matin, à penser que seules des actions locales peuvent inverser la tendance sur des problématiques comme celle-là. On peut, évidemment... promouvoir, et c'est le rôle aussi des élus, des circuits courts, l'agriculture biologique, des cantines scolaires où on amène du bio et on privilégie les circuits courts. Mais si tout autour, on a quand même un contexte réglementaire qui fait que ben, les pesticides, ils sont toujours là. Voilà, quelles sont les marges de manœuvre? Voilà, question et reste posée. Et moi, j'ai pas beaucoup de... Voilà, j'ai pas beaucoup de réponses à apporter à ça, si ce n'est que je reste très pessimiste en fait sur la suite. Quand vous avez un préfet qui après le premier jugement me rencontre à l'occasion d'une réunion d'élus et qui passe en me souriant et me dit « Ah, monsieur Cretin, vous avez vu, c'est moi qui ai gagné ». Est-ce que c'est le rôle d'un préfet de dire ça devant mes autres collègues élus? Moi, je lui ai quand même répondu que c'était quand même... Est-ce qu'il fallait se réjouir d'un problème de santé publique? C'est ce que j'ai répondu au préfet. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je suis un petit peu démuni. Moi, je suis là en... Voilà, on m'a demandé aussi un petit peu de témoigner sur une action locale. Mais on voit que même le maire, dans des actions comme celle-là, où quand même, quelque part, il est dit que le maire doit quand même se préoccuper de la santé... public de ses citoyens, on voit que là il est clairement démuni et que il y a les institutions qui ne permettent pas d'évoluer dans un sens qui paraît, en tout cas aujourd'hui quand on parle de préservation de l'environnement, de biodiversité, on entend ça tous les jours et dans les faits on voit bien que tout est bloqué pour autant. Donc voilà, donc moi je pose aussi la question, quelles sont les marges de manœuvre, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les actions locales suffisent à faire évoluer le système? Moi, j'en suis pas persuadé. Voilà. Donc, je reste globalement très pessimiste. Voilà, je ne sais pas si...
L'argument quand même que tu avais amené, c'était celui de l'impact sur une source en aval de la loupe.
Oui.
Et qui fournit de l'eau à la ville de besoin.
Oui, alors voilà, ça, cet argument.
Ouais.
Alors je vais, oui, peut-être développer un petit peu ce point-là pour montrer quand même. On m'a répondu que moi j'ai posé la question, pourquoi c'est le seul ministre de l'Agriculture qui peut légiférer sur les pesticides? On m'a répondu que c'était pour garantir un système d'équité entre tous les citoyens, parce qu'en fait, en gros, on m'a dit, les maires sont pas forcément au courant de toutes les problématiques et de la réglementation relative aux pesticides. Donc, le seul moyen et le seul garant d'une équité, c'est le ministre de l'Agriculture pour réglementer les pesticides. Moi, j'ai essayé de démontrer que, justement, ce système-là, en tout cas, crée des iniquités. Et l'exemple que j'ai pris, c'est la qualité de l'eau. Par exemple, à Nancy-Sainte-Anne, bon, c'est, pour ceux qui connaissent Nancy-Sainte-Anne, c'est, ça se situe à 10 km d'ici, la source du Lison, c'est un milieu karstique, il y a de l'eau partout. Et on a notre propre captage d'eau potable, c'est-à-dire que c'est la commune qui gère l'eau, qui capte l'eau, qui la potabilise et qui la distribue à ses abonnés. Et dans le mandat précédent, on a mis 300 000 euros pour mettre en place une protection de captage, un système de traitement, filtre à sable, filtre UV, pour avoir une eau potable de qualité à distribuer aux citoyens. Et dans la protection du captage, il y a des périmètres de protection immédiats, rapprochés et éloignés. Et dans chaque périmètre, il y a une réglementation stricte, avec des choses qui sont autorisées, réglementées ou interdites. Et dans les périmètres de protection immédiats rapprochés, les pesticides sont interdits. Donc la question que je posais, c'est ce que j'ai soulevé au tribunal. J'ai dit, mais si les pesticides sont interdits dans les périmètres immédiats et rapprochés de captage, c'est donc qu'il y a un problème par rapport à la qualité de l'eau. Puisque c'est les protections de captage, c'est le préfet avec l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé, qui définit les protections de captage. Donc ça veut dire que sur, en gros, 10% du territoire communal où il y a notre captage, on n'a pas le droit de mettre des pesticides, mais on peut en mettre sur les 80 autres 10% du territoire communal. Donc, pour autant, si je mets des pesticides à cet endroit-là, tôt ou tard, ils vont rejoindre le Lison. Et le Lison se jette dans la Loue. Et la Loue, on a Val de Chêne-Sébillon, il y a un prélèvement dans la Loue qui alimente un tiers de la ville de Besançon, par un prélèvement direct dans la rivière. Donc on voit bien qu'à un moment, sur le captage de Nance, les agriculteurs n'ont pas le droit de mettre des pesticides, parce qu'a priori c'est dangereux pour la consommation humaine. Par contre, sur le reste du territoire, on peut en mettre, même si cette eau, par ailleurs, rejoint le milieu aquatique, et que plus bas, elle est captée pour d'autres populations. Donc moi, j'ai essayé de démontrer, j'ai dit, elle est où la cohérence là, et elle est où l'équité de cette réglementation là.
Elle est posée sur les berges encore.
Et oui, ouais, sur les berges et tout ça. Donc, et au final, bon, là-dessus, je n'ai pas eu évidemment de réponse. Mais voilà, donc j'ai essayé de démontrer qu'en fait, il y avait des incohérences. On était en pleine incohérence totale. Mais pour autant, la loi, elle est celle-là. Le maire ne peut pas légiférer sur les pesticides et ne peut pas interdire les pesticides sur son territoire. Voilà, alors le problème aussi, c'est qu'on est à peu près 150 à 200 maires qui ont pris des arrêtés au niveau national. Bon, celui du maire de Langouette a été très médiatisé, tant mieux d'ailleurs. Par contre, il y a 36 000 communes en France. Donc vous voyez bien que si, tant qu'il y a 200 communes qui ont pris un arrêté, s'il y a eu 20 000 maires qui avaient pris un arrêté, le rapport de force serait évidemment pas le même. C'est beaucoup de petites communes qui ont pris des arrêtés. Il y a aussi, il y a aussi des grandes villes comme Grenoble, Lyon, certaines agglomérations qui ont pris aussi un arrêté pesticide. Mais on voit bien que s'il y avait eu un mouvement plus important, je pense que ça pourrait faire infléchir. Voilà. Moi, juste pour info, hein, au niveau local, il n'y a que deux maires qui sont venus me voir au tribunal administratif, qui sont venus avec leur écharpe. Bon, j'ai eu quelques conseillers municipaux qui sont aussi venus me soutenir. Mais j'ai eu aucun élu qui m'a soutenu, aucun sénateur, aucun député qui est venu au tribunal ou qui aurait pu m'envoyer un mail en me disant ben voilà, ton combat est légitime, on est derrière toi. Même pas ça, quoi. Je veux dire. Donc c'est vrai que ça. Moi, je travaille dans une collectivité qui travaille sur l'eau. Hein. J'ai eu aucun élu ou très peu d'élus de la collectivité où je travaille qui a mis un petit mot en me disant bon, bah, écoute, Manu, tu peux compter sur notre soutien ou des choses comme ça. Donc on voit bien, alors pourquoi pas de positionnement? Ben parce que certains ont peur des retombées politiques, hein, clairement. On est sur des territoires ruraux où encore le poids électoral des familles d'agriculteurs est important. Ça, c'est un premier argument. Il y a aussi des maires qui m'ont dit clairement, ben écoute, c'est pas notre sort, donc qu'est-ce qu'on va aller perdre notre temps à prendre un arrêté? Voilà. Quand même un problème de santé publique. Et puis, il y a aussi des maires qui ne sont pas conscients ou c'est pas leur tasse de thé, et qui ne sont pas conscients du réel problème environnemental, santé publique, que posent les pesticides. Pourtant, l'eau, quand même, on pourrait encore ne pas tenir compte des oiseaux et des petites bêtes qui crèvent des pesticides, mais l'eau, pour autant, sans eau, ben, c'est ce que je veux dire, c'est une évidence, mais il n'y a pas de vie. Donc l'eau, tout le monde il sera confronté, tout le monde en boit. Donc s'il y a quand même bien un élément sur lequel il faut se battre, c'est l'eau. Et moi, je suis quand même sidéré qu'il y ait si peu d'élus qui se préoccupent, ou en tout cas qui montent au créneau sur ces aspects-là. Oui, alors il y avait un peu la société civile, mais voilà, c'est que 100 personnes, entre guillemets, c'est déjà bien, mais que 100 personnes devant un tribunal administratif, donc c'est pas non plus énorme par rapport aux enjeux que ça représente, quoi. Voilà, donc... Enfin voilà, donc penser globalement, oui, agir localement, oui, il faut le faire, hein. Moi, je pense que c'était mon rôle de le faire, et puis ça faisait partie aussi de mes convictions, et en tant que maire, voilà, j'avais l'occasion de pouvoir le faire, donc je l'ai fait. Je précise aussi que c'est une situation peut-être plus facile à Nance ou Sainte-Anne, hein, parce qu'on est une commune où il reste qu'un agriculteur, il est en bio, alors il y en a certains qui m'ont dit « Ouais, ben t'as pris un arrêté à Nance, parce que en gros, il n'y a pas de grosse problématique pesticide sur la commune, et puis que le seul agriculteur qui est sur la commune, c'est un bio. » Effectivement, c'est plus simple que dans d'autres communes rurales où on a des agriculteurs en conventionnel. Mais néanmoins, il y a d'autres communes rurales où il n'y a pas beaucoup non plus d'agriculteurs. Et pour autant, les arrêtés n'ont pas non plus été pris par mes collègues élus. Donc voilà. Donc après, bon, moi, j'ai fait le job, comme on dit. Mais voilà, le constat, il est quand même... on peut être amer, quoi. Voilà, donc c'était ce témoignage-là. Alors moi, il n'est pas philosophique, mon témoignage, hein, mais c'est la vraie vie, pour autant. Voilà.
Merci.
Bravo. Merci.